tout de suite le journal de la nuit. C'est avec vous Chanel Petit. Bonsoir Chanel.
Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. À la une ce soir, la pression était forte. François de Rugy claque la porte. Il démissionne de ses fonctions de ministre de la Transition écologique dans la tourmente depuis près d'une semaine après les révélations de Mediapart sur son train de vie, ses dépenses excessives. Analyse et réaction dès le début de ce journal. La fin ou presque de l'aventure Tati, près de 100 magasins repris et 13 fermés. Il ne restera plus qu'un magasin au nom de l'enseigne de vêtements, boulevard Barbès à Paris, le site historique. Ursula von der Leyen, élue de justesse à la tête de la Commission européenne, l'Allemande succédera donc en novembre au luxembourgeois Jean-Claude Juncker et la tâche s'avère compliquée. Bonne nouvelle, le sida fait considérablement moins de morts. Mauvaise nouvelle, les contaminations continuent à cause notamment de la stagnation des politiques de prévention. L'affaire des arbitrages Tapie, ce n'est pas fini. Le parquet de Paris fait appel de la relaxe générale pour Bernard Tapie et pour les 5 autres personnes mises en cause. Nouveau procès, mais l'avocat de l'ancien ministre est confiant, nous l'entendrons. Plus de la moitié de la France touchée par la sécheresse, 61 départements sont concernés par des mesures de restriction. L'usage de l'eau pour l'agriculture est totalement interdit pour 21 d'entre eux classés en crise. Politique catastrophe, nous dira la FNSEA. Pas question d'installer une fan zone pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations vendredi. La décision du secrétaire d'État Laurent Nunes qui craint des débordements et prévoit un important dispositif de sécurité. Et puis le musicien sud-africain Johnny Clegg, décédé aujourd'hui à l'âge de 66 ans. Le Zoulou blanc, défenseur mondialement connu de Nelson Mandela. Il luttait contre un cancer depuis plusieurs années. Côté météo, demain ce sera une journée estivale, mais des nuages dans l'est, au bord de la Manche et sur les Pyrénées.
Europe 1.
François de Rugy ne pouvait plus assurer sereinement sa mission. Voilà comment l'ex-ministre de la Transition écologique justifie sa démission cet après-midi. En une semaine, le site Mediapart a publié des révélations embarrassantes. Ses dîners fastueux alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. La rénovation de son appartement de fonction pour 63 000 euros. L'utilisation de ses frais de mandat pour payer sa cotisation au parti Europe Écologie. Michaël Darmon, vous êtes éditorialiste politique à Europe 1. On avait le sentiment, Michaël, que le plus dur était peut-être passé après les révélations, avec notamment le soutien d'Emmanuel Macron hier. Et puis non, François de Rugy finit par démissionner. Michaël, qu'est-ce qui s'est passé les dernières heures avant cette annonce ?
C'est ce matin que s'est joué l'épilogue de cette nouvelle crise gouvernementale lorsque François de Rugy se rend à Matignon. Une réunion de travail est calée de longue date sur les dossiers ministériels. Au moment où il arrive, Édouard Philippe demande à tous ses collaborateurs de sortir de la pièce. Et c'est en tête-à-tête que le vrai sujet à l'agenda donc est abordé avec François de Rugy, c'est-à-dire les attaques, c'est le terme officiel de Matignon, qui s'accumulent et deviennent ingérables contre donc le ministre de la Transition écologique. À ce moment-là, François de Rugy annonce sa décision, il présente sa démission. De plus, il a entendu depuis Belgrade le président de la République qui a demandé les pièces des enquêtes menées officiellement pour décider. Il a compris que son sort est scellé. La semaine dernière, la posture du gouvernement, vous l'avez dit, était le maintien de la confiance face à Mediapart qui n'allait pas faire et défaire, je cite, le gouvernement, disait-on, autour du Premier ministre. Mais tout le monde savait que ça serait ingérable. Dimanche soir, des ministres importants du gouvernement doutaient que François de Rugy passe la semaine. Ce matin, le chef du gouvernement a accepté la démission de François de Rugy. Il est le 4e ministre d'État à quitter le gouvernement en 2 ans.
Merci Michaël Darmon. Et pourtant, vous l'avez dit, François de Rugy a bien reçu le soutien du chef de l'État, du gouvernement. D'ailleurs, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, l'a encore une fois répété quelques heures après sa démission.
Moi, je ne juge pas les raisons qui conduisent François de Rugy aujourd'hui à faire le choix de quitter le gouvernement. Il le fait parce qu'il y a des articles de presse qui l'ont mis en cause. Évidemment, nous sommes attachés à ce que la République soit exemplaire parce que c'est évidemment légitime que les Français attendent cela de nous. Est-ce que pour autant, sur la foi de simples articles, on doit être cloué au pilori ? Je ne le crois pas non plus. Je crois que la décision de François de Rugy est une décision quelque part qu'il honore parce qu'il n'a pas voulu entacher le collectif des soupçons qui pèsent sur lui. J'espère qu'il aura la possibilité de se défendre maintenant sereinement, librement, et qu'il pourra prouver que toutes ces accusations n'étaient pas fondées. Mais évidemment, la suite nous le dira aujourd'hui.
La porte-parole du gouvernement chez nos confrères de LCI. Et François de Rugy dénonce un lynchage médiatique, annonce même qu'il portera plainte pour diffamation contre Mediapart, ce qui agace Michael Hagenberg, journaliste à Mediapart, qui défend le droit d'enquêter.
Ce qui nous intéresse, c'est de diffuser des informations d'intérêt public. Il me semble que l'argent public et la façon dont les élus, nos représentants l'utilisent, c'est essentiel. Et les journalistes sont là aussi pour ça, pour être un contre-pouvoir. On n'est pas magistrat. Nous, on expose des faits. Ensuite, voilà, on rend pas compte des conséquences. Ces faits-là, il y a un règlement à l'Assemblée nationale. François Drugy, il n'a pas le droit, c'est les règles de l'Assemblée nationale, d'utiliser ses frais de mandat, ses frais professionnels de député pour payer sa cotisation d'élu. Il n'a pas ensuite le droit de déclarer au fisc qu'il a fait des dons comme particulier, alors qu'en fait, il se sert de l'argent public pour faire ses dons, ce qui lui permet à la fin de s'exonérer de tout impôt à payer. Voilà, c'est comme ça, ces règles elles existent. De la même façon, il n'a pas le droit de faire des repas fastueux avec des amis intimes, alors que c'est de l'argent public. Enfin, c'est quand même choquant à notre sens.
Ce qui choque un petit peu les auditeurs.
Les faits, ils sont révélés, ils ne les contestent pas. Ensuite, s'il y a des gens que ça choque pas, bah très bien, chacun fait son opinion. Nous, on publie des faits.
Michael Hagenberg, invité ce soir de François Claus. Alors, qui donc pour remplacer François de Rugy ? L'exécutif avait déjà du mal à trouver un successeur à Nicolas Hulot il y a 10 mois. Alors pour le moment, les dossiers sont repris par Elisabeth Borne, Brune Poirson et Emmanuel Wargon qui étaient sous la tutelle de François de Rugy.
Europe 1.
Le projet de loi de la restauration de Notre-Dame de Paris, définitivement adopté par le Parlement ce soir. Les députés ont fixé le cadre du futur chantier après l'incendie du 15 avril dernier. Ils fixent également le statut des dons qui, pour certains, ne sont toujours pas arrivés. Et puis, un peu plus tôt dans l'après-midi, le Parlement a également adopté définitivement le projet de loi santé. Il prévoit, entre autres, la disparition du numerus clausus pour les étudiants en médecine, la mise en place d'au moins 500 hôpitaux de proximité et des stages obligatoires dans les déserts médicaux. Les magasins Tati ne sont pas rentables. Près de 30 millions d'euros de pertes l'an dernier, selon le propriétaire. L'enseigne va donc disparaître, ou presque. Un seul magasin va rester en activité. Ce sera celui du quartier Barbès à Paris, magasin historique, magasin emblématique. Les autres vont fermer ou deviendront des Jiffy. C'est le cas notamment de ce Tati du 12e arrondissement de Paris où Arnaud Rozac s'est rendu cet après-midi.
Un logo, 4 lettres en rose et bleu et cette vitrine que la marque a essayé de moderniser, notamment pour Fatia et Sadia, deux amis qui ont fait une razzia chez Tati pour leurs enfants au Maroc.
On a acheté des habits, des bonbons, du chocolat, plein de trucs.
30 ans que Fatia est arrivée en France, 30 ans que cette retraitée se fournit dans ce célèbre bazar de Barbès et d'ailleurs. Cette disparition, c'est la fin d'une époque pour elle.
Quand ils ont fermé celui de République, on était malheureuses comme tout, mais ça fait mal au cœur hein, quand même. Hein.
Ibrahim, lui aussi, a une histoire particulière avec ses magasins. À chaque rentrée scolaire, sa mère venait braver les interminables queues pour lui refaire sa garde-robe.
Aujourd'hui, heureusement, je travaille, je peux m'acheter tous les habits que je veux. Donc, Tati, c'est de l'histoire ancienne pour moi. Mais si j'aurais été dans la même position que mes parents à cet âge-là, j'aurais vraiment aimé avoir tête.
Mais depuis plusieurs années, l'enseigne qui promettait les plus bas prix a vu son activité chuter. Eva fait partie des clients qui se sont laissés tenter par une forte concurrence.
Là, par exemple, il y a Babou, il y a Action. Il y a pas mal de trucs qui sont ouverts, qui sont plus avantageux que Tati.
Des enseignes en pagaille qui auront été fatales pour la marque, qui fêtait cette année ses 71 ans.
Le reportage d'Arnaud Rozac pour Europe 1. Elle est le nouveau visage de la Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen, élue ce soir présidente de la Commission européenne, première femme à ce poste. Elle prendra ses fonctions en novembre pour un mandat de 5 ans. Isabelle Horry, vous étiez aujourd'hui à Strasbourg, où a eu lieu le vote des eurodéputés, et l'ancienne ministre de la Défense allemande a été élue d'extrême justesse.
Effectivement, Ursula von der Leyen a été élue avec 9 petites voix d'avance. C'est peu dans un hémicycle de 751 eurodéputés. Et même si la première femme présidente de la Commission européenne faisait bonne figure après le vote, c'est quand même une déception. Malgré un discours fait exprès pour eux ce matin, elle n'a pas réussi à séduire les Verts européens et une partie de la gauche. Pire, elle a aussi perdu quelques voix dans son propre camp, la droite conservatrice, car certains l'ont trouvée trop sociale. Comme le vote est à bulletin secret, on ne sait pas précisément qui a voté quoi, mais les Polonais du PiS, archi-conservateurs, et les populistes italiens du mouvement 5 étoiles ont eux annoncé publiquement qu'ils avaient déposé un bulletin dans l'urne en sa faveur. Leurs voix ont été décisives pour atteindre la majorité. C'est de mauvais augure pour la suite car Ursula von der Leyen manque de soutien dans un parlement divisé. Or dans les mois qui viennent, il va falloir que chaque commissaire, chaque membre de son équipe passe lui aussi un grand oral. Certains leur prédisent déjà des moments difficiles.
Merci Isabelle Aurier. La réaction d'Emmanuel Macron ce soir, nous pouvons être fiers de l'Europe, a salué le président de la République. C'est un chiffre que l'on a peut-être tendance à oublier chez nous à l'heure des trithérapies, mais le sida dans le monde continue à faire des ravages, même si on est loin de l'hécatombe des années 2000. L'ONU vient de publier son rapport annuel aujourd'hui. Pauline Jacquot, 770 000 morts dans le monde en 2018. Mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que ce chiffre, toujours aussi dramatique, est en très forte baisse.
Oui, c'est un tiers de morts en moins qu'en 2010, deux fois moins qu'au début des années 2000. On meurt moins du sida parce que les traitements sont plus accessibles, surtout en Afrique du Sud, le pays du monde le plus touché par l'épidémie, et en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie. C'est là, dans ces deux régions d'Afrique, que vit plus de la moitié des malades du sida. Aujourd'hui, dans le monde entier, un peu plus de 3 séropositifs sur 5 suivent un traitement. Ça n'était jamais arrivé, ça veut dire concrètement que 3 malades sur 5 ne peuvent plus transmettre le virus. Mais il y a tout de même des chiffres qui inquiètent. En Europe de l'Est et en Asie notamment, 30% d'infections en plus dans ces zones et un nombre de morts qui augmente d'environ 5%. Mais il y a aussi ce chiffre, ce milliard de dollars qui manque sur le bilan de cette année. 19 milliards d'investissements contre 20 l'an dernier. Il en faut 7 de plus pour tenir les engagements. L'an prochain, l'ONU veut que 9 porteurs du VIH sur 10 soient au courant de leur situation et que 9 malades sur 10 soient sous traitement.
Merci Pauline Jacquot. Bernard Tapie n'en a pas fini avec la justice. Le parquet de Paris a fait appel de sa relaxe dans l'affaire de l'arbitrage contesté de son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Il avait touché 403 millions d'euros en 2008 et les juges n'avaient notamment pas retenu le détournement de fonds publics. Mais malgré cet appel, fait aujourd'hui donc, l'avocat de Bernard Tapie, Maître Temim, reste ce soir très optimiste pour son client.
Je n'ai aucune inquiétude sur la suite de la procédure. J'allais dire au contraire, parce que je pense qu'on sera encore plus ferme et plus fort devant la cour d'appel. Cela étant, voilà, je regrette que le parquet n'ait pas pu saluer avec enfin du recul et un peu davantage de lucidité une décision qui me paraît inattaquable en fait et en droit. Je regrette aussi que ça prolonge, à mon avis, artificiellement une procédure interminable. Et puis, je dois vous dire que, à l'égard de Bernard Tapie, j'ai un peu le sentiment que ça ressemble à de l'acharnement. On connaît l'ensemble des données de cette affaire, y compris sur un plan humain. Ça fait beaucoup, ça aurait été bien que ça s'arrête là, mais sur un plan professionnel et personnel, je n'ai aucune crainte pour la suite.
Maître Temim au micro européen de Claude Triomphe. Plus de la moitié de la France touchée par la sécheresse, 61 départements sont concernés par des mesures de restriction. L'usage de l'eau pour l'agriculture est totalement interdit pour 21 d'entre eux, comme le Maine-et-Loire, le Tarn ou encore la Dordogne. Mesure disproportionnée qui fait encore plus de mal aux agriculteurs pour Luc Maessert, éleveur dans l'Oise et vice-président de la FNSEA.
Ça, c'est de la poudre aux yeux, ces mesures de restriction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire payer le prix fort à l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va limiter les heures d'irrigation, alors que c'est aujourd'hui qu'on aurait besoin justement pour être autonome en fourrage, autonome en production. Et puis surtout, c'est qu'on n'attaque pas dans le dur, dans le fond du problème, c'est-à-dire de faire des vraies réserves d'eau, qu'on stocke l'eau en hiver. Il y en a marre de cette situation où on est incapable aujourd'hui de faire des stockages en France, alors que dans un pays voisin comme l'Espagne, aujourd'hui, on est capable d'utiliser l'eau qui tombe en hiver en excès pour l'utiliser à bon escient. Au lieu d'avoir des petites phrases et puis de passer du temps à festoyer, il faut vraiment qu'on ait un gouvernement et un ministère de l'Environnement qui aujourd'hui accompagne son agriculture, accompagne son économie. C'est indispensable quand on a une sécheresse comme on a actuellement. On ne peut pas rester sans rien faire.
Luc Maessert, le vice-président de la FNSEA. Les inondations et les glissements de terrain, eux, ont fait près de 200 morts en Asie du Sud. La mousson fait des ravages au Vietnam, au Bangladesh ainsi que dans le nord de l'Inde. Des communautés entières se retrouvent coupées du monde par la montée des eaux selon la Croix-Rouge. Il craint les casseurs. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, prévoit un dispositif policier extrêmement conséquent pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affrontera le Sénégal vendredi. Et après les débordements du week-end dernier dans plusieurs villes de France, Laurent Nunez veut répondre avec fermeté à ceux qui voudraient commettre des violences. Et donc c'est décidé, pas de fan zone.
Vous n'empêchez pas, en créant une fan zone, vous n'empêchez absolument pas les scènes de liesse en cas de victoire de l'une ou l'autre équipe, qui ne manqueront pas de se produire et qui n'auront pas lieu sur le périmètre de la fan zone. On l'a vu pendant toute la Coupe du Monde de football en Russie, on l'a vu pendant tout l'Euro sur le territoire national que nous avons organisé en 2016. Donc les fan zones, c'est totalement hors sujet. Ce qui est important, c'est ce que nous allons faire vendredi, avoir un dispositif policier et de gendarmerie qui soit conséquent, déployé sur l'ensemble des zones où il peut y avoir des regroupements populaires pour fêter la victoire de l'une autre équipe et contenir les débordements comme nous l'avons fait dimanche soir. Le dispositif était suffisant et nous allons le reconduire vendredi soir. Il ne faut pas donner plus d'importance à des faits qui ne sont pas des faits et des troubles graves à l'ordre public. Voilà.
Laurent Nounès depuis Marseille au micro de Nathalie Chevance. Une journée de repos aujourd'hui sur le Tour de France.
Europe 1.
Le Tour de France avec Dequeninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dequeninck.fr.
Les coureurs affronteront demain les 167 km qui séparent Albi de Toulouse. C'est toujours le Français Julien Alaphilippe qui porte le maillot jaune. Hier, lors de la 10e étape, Thibaut Pinot a essuyé un échec cuisant. Il est arrivé à plus d'une minute trente du vainqueur. Il se confie ce soir sur cette étape particulièrement difficile.
Il y a un peu de tout, on va dire. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration aussi. Parce que ça, on ne le méritait pas et je n'accepte pas, quoi. C'est ça qui est dur, c'est qu'on avait fait zéro erreur. On fait une erreur sur un... J'ai pas envie de parler de ce rond-point parce que c'est... On a fait une erreur hier, on n'était pas bon collectivement peut-être aussi. Mais on était là, on était quand même présent dans le match. Et là-dessus, non, j'ai du mal à l'accepter. Hier, c'était une étape très usante, une des plus nerveuses que j'ai fait sur le tour parce que c'est pendant 220 bornes, ça frottait. On a été là pendant 200 bornes dans les 20 premiers, 30 premiers. Et voilà, j'ai pris des coups de bordure, j'en ai déjà pris. Et celle-là, j'arrive pas à l'accepter, quoi. Celle-là est trop frustrante pour moi.
Thibaut Pinot au micro de notre envoyé spécial sur le Tour, Axel May. Le Zoulou blanc n'est plus. Le musicien sud-africain Johnny Clegg est mort aujourd'hui des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. Il s'est engagé dans la lutte contre l'apartheid. Son titre phare, Asi Bonanga, qu'on écoute en ce moment, sorti en 1987, était dédié à Nelson Mandela, alors emprisonné. En 1999, le prix Nobel de la paix l'avait même rejoint sur scène à Francfort. Asim Bonanga, sorti en 1987, c'était par Johnny Clegg. Et je me tourne maintenant vers vous, Elena Morna, pour la météo. Demain donc, soleil ardent et des températures en hausse.
Mais oui, c'est exactement ça. Un soleil bien présent demain, malgré la présence d'un voile nuageux sur la façade est et sud-ouest. Voile qui tamisera à peine les ardeurs du soleil. Sur la Bretagne et les bords de Manche, quelques nuages inoffensifs. Sur les Pyrénées, des nuages qui resteront accrochés au relief et sans doute une petite averse orageuse en fin de journée. Les températures, elles vont faire comme aujourd'hui, une remontada assez remarquable entre le matin et l'après-midi. À Reims et Charleville-Mézières, par exemple, on va passer de 8 degrés le matin à 28 l'après-midi. Alors c'est vrai que c'est plus doux le matin près de la Méditerranée avec 18 à 21 déjà. Et puis l'après-midi, pas moins de 21, mais cette fois-ci, ce sera pour Dinard, la ville la plus ensoleillée de France pendant la première quinzaine de juillet. 24 à Caen, Quimper et Biarritz. 26 à Lille, 28 à Nantes, Strasbourg et Ajaccio. 29 à Bordeaux et Saint-Etienne. 30 à Bourges, Paris et Auxerre. 31 pour Marseille, 32 pour Toulouse, Perpignan et Lyon, jusqu'à 35 degrés pour Nîmes. Des températures qui baisseront un chouïa jeudi, mais remonteront de plus belle en fin de semaine avec un pic de chaleur attendu en début de semaine prochaine.
Merci Elena Morna. Dans un instant, Europe 1 vous propose de découvrir ou de redécouvrir sa création originale. Ça s'appelle 3h56. Ne manquez pas ce rendez-vous, c'est dans une minute. Et ensuite, vous retrouverez bien sûr la Libre Antenne avec Caroline Veil.